Bonjour à tous, ici Chaos, on est dimanche, il est 17h, c'est l'heure du live, et cette semaine c'est le live Piratalk. On va papoter tous ensemble bien sûr. Attendez, je juste me ferme toutes mes fenêtres là qui traînent pour rien, pour que je puisse voir tout le chat, qui est très bavard aujourd'hui, et je vais tout de suite vous saluer bien sûr. Donc, bonjour Asborg, bonjour Nuts, bonjour Cabot, bonjour Defaults and Sec, bonjour Madcast 2001, bonjour Toto Lolo, bonjour Nuts j'ai déjà dit, bonjour Iti, bonjour Early Joseph, bonjour Hello Tarty, bonjour Hades Gamer, bonjour Libitep, oula, merci pour le follow Maxi Kazi. Tac tac tac, bonjour Curtisis, je crois que j'ai fait tout le monde, non, bonjour Captcha, on va dire, bonjour Guerre du 69, et cette fois j'ai dit bonjour. Première fois que j'entends aujourd'hui, c'est le live Pirate Talk et pas Akin, et bah oui, c'est la semaine du talk. Et là, qui c'est qu'on a derrière nous? On a Asborg et Charlie Cool qui vont m'accompagner sur le beau bateau que vous voyez là-bas. Et d'ailleurs, je vais tout de suite aller dans le vocal pour leur donner la voix. Hop, voilà. Normalement, je vous entends. Vous pouvez me parler. Tout va bien. Vous pouvez faire un test de voix.
Allô?
Oh là, attends, je vais juste baisser le son parce que sinon ça m'explose les oreilles.
Allô, allô, bonjour.
Bonjour tout le monde.
Bonjour, bonjour.
Peut-être, Charlie, je vais te baisser un tout petit peu. Tu as un micro qui porte, ou tu as une voix qui porte, je ne sais pas.
Je sais pas.
Et donc, pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que c'est que cette histoire de Pirate Talk, pour ceux qui ne connaissent pas, on est déjà au 6e ou 7e épisode. Eh bien, tout simplement, on va passer une heure ensemble à discuter hacking, éthique, politique, nouvelles technologies, un petit peu l'actu du moment, quoi. Vous allez pouvoir poser toutes les questions que vous voulez. Si vous voulez poser les questions dans le chat vocal, eh bien, si vous avez accès au Discord, n'hésitez pas. Vous pouvez tous venir, même si vous n'êtes pas en train de jouer au jeu, il n'y a pas de souci. Et donc, on va faire tout ça tout en jouant. Voilà. Donc, ce qui veut dire que je vais être mauvais et au jeu et à répondre aux questions, puisque je vais être en train de faire les deux. Et comme mon cerveau ne sait pas faire deux choses en même temps, ce sera mal fait, bien sûr. Donc, vous pouvez balancer toutes les questions qui vous viennent à l'esprit. Moi, j'ai quelques sujets à aborder si jamais on est en panne d'inspiration. Et puis, bah, ma foi, voilà. Merci pour le follow, Dr. Lux. Je croyais que c'est du gaming. Bah, c'est du gaming si tu veux. On va jouer à Sea of Thieves. Je vais d'ailleurs mettre tout de suite une petite quête. Les gens dans l'équipage, vous pouvez venir voter. On va faire un peu de combat aujourd'hui. Pour changer. D'où le nom Pirate Talk. Tout à fait. C'est ça. On parle de piraterie tout en faisant de la piraterie. C'est beau, hein? On parle de piraterie. On parle de hacking. On parle aussi éventuellement de piraterie, mais pas que. Donc, bienvenue sur ce beau bateau. Et je vais essayer de suivre le chat qui a l'air extrêmement motivé aujourd'hui. Donc, je vais essayer de ne pas rater vos questions. Si jamais je rate une de vos questions, vous n'hésitez pas à la remettre. Parce que, vous savez, moi, je ne suis pas un grand expérimenté. Donc, messieurs de l'équipage, je vous invite à venir voter pour la quête que j'ai mise là. Comme ça, on fera... Je pense qu'on fera qu'une seule quête, hein, parce qu'en général, en live, ça n'avance pas vite. Donc, on va faire cette petite quête-là, qui est une quête de tuer des squelettes, voilà, tout simplement. Et donc, dans le chat, eh bien, vous pouvez déjà poser vos questions, n'hésitez pas, on est là pour ça. Enfin, je suis là pour ça, et mes camarades vont se donner un cœur joie de m'aider quand je ne sais pas. Vous me dites aussi si jamais les micros sont pas forcément bien réglés, hein, à chaque fois, il faut que je réajuste, donc si jamais vous entendez quelqu'un trop fort ou pas assez, vous me le dites, j'essaierai de rectifier ça. Normal, quand il y a défaut et nulls dans le chat, c'est toujours animé. Ah bah écoute, très certainement. Donc où on va aller? On va aller à Smuggler Bay pour aller tuer un squeletton. Donc, Smuggler Bay, ça doit être tout en haut. Et c'est ça, c'est au nord. Donc il va falloir faire demi-tour. Hein. Hop là. Opti avait posé une question déjà, et je l'ai déjà raté. Alors, je remonte. Bonjour, il avait dit bonjour. C'était ça sa question? Non. Peux-tu nous parler de Cobalt Strike? Ah! Peux-tu nous parler de Cobalt Strike vite fait? Alors, Cobalt Strike, je ne. J'ai pas pratiqué, mais alors, vous m'arrêtez si je me trompe, hein, mais il me semble que c'est. C'est Metasploit, c'est la nouvelle version de Metasploit, c'est ça, hein? Je dis pas de conneries. C'est une version payante d'un truc qui reprend les briques de Metasploit. On est d'accord là-dessus? Et du coup, comme ma réponse semble l'indiquer, j'ai pas du tout utilisé Cobalt Strike. D'une part parce que, autant que je sache, c'est payant et très très cher. Et donc j'ai pas les moyens. Et de l'autre, j'ai jamais été voilà, très fan déjà de base de tout ce qui est outils de ce genre-là, que ce soit Metasploit ou il s'appelait l'autre, il y avait Empire aussi, il y avait Armageddon, je sais plus comment il s'appelait. Bon, ça c'est une surcouche à Cobalt Strike. Ah bah si, c'est ça. Cobalt Strike, c'est une surcouche graphique à Metasploit, c'est ça. Et enfin, ouais, Armitage, voilà, c'est ça. En fait, Cobalt Strike, c'est le remplaçant d'Armitage, voilà, c'est ça. C'est pas un remplaçant de Metasploit. Et donc, du coup, voilà, j'ai jamais beaucoup utilisé ces outils-là déjà de base quand ils étaient gratuits. Je vais encore moins les utiliser maintenant qu'ils sont payants. Donc, si vous voulez des infos de comment ça marche, bah, faudra demander à quelqu'un qui s'en sert, hein. Moi, c'est vrai que pour le coup. Vous le savez, hein, dans mes lives, j'aime bien expliquer, j'aime bien aller dans le détail, j'aime pas forcément utiliser les outils tout faits. Mais après, c'est peut-être génial, hein, pour ce que j'en sais. En fait, c'est un peu le problème. Comme c'est des outils très chers, bah, les gens qui les utilisent, ils ont tellement payé cher qu'ils vont forcément en dire du bien, vous voyez. C'est un truc con, hein, mais c'est psychologique. Si vous avez payé 1000 balles pour avoir un super outil, et bah, s'il n'est pas si terrible que ça, vous allez quand même dire que c'est un super outil. Et c'est totalement un biais psychologique. Ça fait peut-être le taf. Hein. Honnêtement, j'en sais rien. Je m'en suis jamais servi. Donc je vais pas dire du bien ou du mal de l'outil lui-même. Salut, salut, Default Route. Ça fait tellement longtemps que t'étais pas venu. Ben, c'est vrai. C'est vrai. Les outils comme ça sont souvent très chers. Ouais, alors typiquement, je sais que régulièrement, je me dis, tiens, j'aimerais bien acheter une licence pour Maltego. Parce que Maltego, j'aimerais bien avoir une licence enfin, moins limitée que le truc Community, là. Maltego, c'est l'outil qui permet de faire de l'osine, quoi, si vous voulez, des recherches en sources ouvertes, un peu automatisées. Et bah, j'aimais bien la version communautaire, mais elle était extrêmement limitée. Et du coup, régulièrement, je me dis, tiens, j'aimerais bien acheter la version payante. Et puis à chaque fois, je regarde le prix, et puis bah, du coup, j'ai plus envie d'acheter la version payante. Parce que, bah, mon Dieu, c'est cher, quoi. Donc,
Jamais de petites promos là-dessus.
bon, je crois qu'il y en avait eu à Maltego. Justement, c'était au moment d'une promo, je voulais regarder. Puis en fait, même avec la promo, ça coûtait un bras, quoi. Donc, j'ai pas un usage suffisamment important de ce genre d'outil pour justifier un paiement. Après, j'ai pas de problème à acheter des trucs qui sont raisonnables. Hein. Genre, j'ai un abonnement à Shodan. Shodan, ça coûte rien, donc c'est facile à avoir. Y a pas de souci, que j'ai pas de problème à donner des sous, mais j'ai un problème à payer des licences complètement craquées sur de l'open source, quoi. Franchement, c'est abusé. Alors, il y a un canon qui nous tire dessus. Hop là. Alors, s'en charger avant que le bateau coule. Donc, c'est un peu ça. Ouais. Quand tu t'attaques à une grosse infra avec plusieurs machines, Cobalt Strike, c'est un bon C2. De toute façon, je pense que, vu le tarif, il doit être pas dégueulasse. Hein. Après, j'utilise très peu de C2, moi, personnellement. Voilà. J'ose espérer, effectivement, qu'il est confortable à utiliser, quoi. Parce qu'avec ce prix-là, c'est quand même la moindre des choses. Alors, le canon, il est là. C'est bon. C'est bon. Ok.
Pour le jeu, il faut m'expliquer, hein. J'ai aucune idée de ce que je dois faire. Hein.
Alors là, la quête, c'est toute simple, faut tuer tous les squelettes. Voilà. Et va y avoir un boss de squelette après. Au fur et à mesure, en fait, il y a des vagues qui vont arriver et il y a un boss à la fin. Rien de bien méchant. Tuk-tuk-tuk-tuk. Donc, du coup, voilà, 999 $ pour Maltego, ouais, c'est clair. C'est bien le tarif que j'avais cru voir. Et il me semble que
Attention,
Cobalt
je t'arrive.
Strike, il est au moins aussi cher. Ah.
Voilà.
Ah, il y a quelqu'un qui a tapé dans une brique là, dans un baril.
Donc ça explose, ok.
C'est ça. Ouais, ouais. Ça fait mal, ça. Et il y en a un autre par terre, faut pas taper dessus.
Ah, ah oui. Sorry.
On est tous morts, là? On est tous morts.
Ouais, je crois.
Ah, c'est
je
pas grave.
Pété, pardon.
C'est okay. Pas grave. Ah, mais c'est pas grave, les débutants sont bienvenus, hein. Toujours sur mes lives. Alors, salut Kao, je voulais appeler une fonction par son adresse dans le GDT, mais j'ai pas trouvé avec GDB la commande adéquate, comment trouver la bonne adresse, tu sais comment faire, pour un buffer overflow. Alors, j'ai su la commande, mais ça fait très longtemps que j'ai pas fait du reverse engineering, en plus j'utilise pas beaucoup GDB, là. J'ai fait du reverse plutôt avec, comment ça s'appelle, AIDA. Oui, c'est AIDA, oui. IDA, je sais pas comment on prononce, enfin bon, voilà, IDA Pro. Donc c'est plus du reverse à froid, quoi, pas sur le programme en train de s'exécuter. Du coup, GDB, c'est plus un debugger, mais j'ai pas du tout les commandes en tête. En plus, les commandes GDB, c'est pas intuitif. Donc honnêtement, là, je peux pas t'aider comme ça à froid. Je peux pas t'aider, malheureusement. Une licence réseau, c'est bien pour travailler dans la cybersécurité. Sinon, quelle licence tu conseilles? Licence puis master cybersécurité. Alors, décidément, aujourd'hui, c'est la journée des questions où j'ai des réponses pas très intéressantes. j'ai jamais fait... Enfin, je sais que maintenant, il y a des formations cyber, mais de mon temps, voilà, je suis un vieux, et donc quand je suis sorti de... Il y a peut-être un trou dans le bateau, hein, je pense qu'il a touché.
Il a touché?
Ah, je vais aller voir. Du coup, quand moi, je suis sorti de l'école, bah, il n'y avait pas de certif cyber. Et donc, bah, les certifs cyber, je connais pas bien leur programme, en fait. N'étant pas moi-même... Pardon, excusez-moi. Pardon ? Ah non, ça se bat. Oui, ne les ayant pas moi-même passés, bah, je peux pas vraiment juger si elles sont mêlées ou pas. Mon école en fait une, maintenant, une formation cyber. Mais du temps où j'étais dans mon école, bah, ils la faisaient pas encore. Est-ce qu'il y a un trou dans le... Oui. Totalement un trou dans le bateau. Alors, un petit coup de bois. Ah bah vous avez eu le chef, c'est bon.
Ouais.
Donc faut ramasser les trésors et puis faut partir.
Il n'y a pas qu'un crâne ?
Oui, il doit y avoir qu'un crâne, je pense. Et puis après, bah si vous avez d'autres quêtes, vous pouvez les mettre. Du coup, on a été très vite sur cette quête. Alors, je reprends le chat. Est-ce que tu arrives à avoir un shell sur Pwn4 à partir de Windows? Non, Pwn4 ça marche que pour les Linux. Tu t'arriveras pas à faire un Pwn4 avec du Windows. Parce que, en fait, ce que fait Pwn4, c'est une surcouche à Netcat. Donc, non seulement, ok, il se connecte, bon, ça pourrait marcher sur une Windows, mais derrière, il lance un certain nombre de commandes pour avoir, pour spawner un TTY, des choses comme ça, qui ne marchent forcément pas sous Windows. Et donc, bah, ça peut pas marcher, en fait. Si t'as une machine Windows, c'est pas la peine d'utiliser Pwn4. Juste, ça marchera pas. Tu sais s'il y a vraiment un gros avantage à avoir Burp Suite Pro? Bah, j'ai jamais utilisé Burp Suite Pro. J'ai toujours utilisé la version gratuite.
Il y a pas mal de modules qui sont pas disponibles dans la gratuite.
Ouais.
Je pense que si tu fais du bug bounty, ça peut devenir intéressant.
Ah, bah après, ouais.
Pour le CTF, non. Clairement, je pense pas.
D'accord. Hein? Vous avez votre réponse. Heureusement que je suis accompagné de gens qui savent, parce que sinon, ce serait tout le temps, je sais pas. Je croyais que c'était hacking, mais non, hacking, c'est la semaine prochaine. Enfin, alors, je vous le redis là, parce que c'est vrai que je vous ai fait une petite annonce comme ça vite fait. Je vous le redis là, tranquillement. La semaine prochaine, on sera le 18, ce sera un live particulier, puisque je ferai pas un CTF. Je ferai autre chose. Mettez pas les voiles. Du coup, je vais faire un live particulier qui va pas utiliser ni VulNub, ni ma VSL2, ni Kali, ni rien de tout ça. Mais on va parler sécurité quand même. Et on va quand même, entre guillemets, faire un jeu d'attaquant attaqué et de défense, attaque-défense. Mais ça va être un jeu sur un autre support. Voilà, on va pas utiliser les CTF habituels. Donc ce sera le live de la semaine prochaine, donc c'est un live hacking si on veut. On va beaucoup parler sécurité, les techniques, aussi bien les techniques d'attaquant que les techniques de défense, il n'y a pas de souci. Ce sera pas YOLO Space Hacker, non, c'est autre chose, mais je vous le dis pas, je veux pas vous spoiler, hein, ce sera surprise, ça se trouve vous allez trouver ça nul, hein, il n'y a pas de souci. Mais j'ai pas envie de spoiler, et donc en fait pendant ce live j'ai utilisé un truc Et ce truc, j'en ai deux exemplaires, parce qu'il y a un truc physique, en fait, si vous voulez. J'en ai deux exemplaires, et donc j'en ferai gagner un à la fin du live. Enfin, on verra après. Je pense que je ferai un tirage au sort après, en mode, vous savez, follow plus RT là, sur Twitter. Enfin, je vais voir comment je vais faire, mais donc après ce live, le truc physique qu'on aura utilisé, il y en aura un de, que je ferai gagner, quoi. Voilà. J'en ai deux exemplaires. Donc, eh bien, voilà. Ça, ce sera le live de la semaine prochaine. Donc c'est du hacking sans en être, ce sera de la sécurité, ça c'est sûr. Et normalement, on apprendra des choses quand même, hein, vous inquiétez pas, c'est quand même pédagogique. on ne déroge pas à la règle.
Vous ne votez pas pour le truc ou...
Hop, j'arrive, excuse-moi. Ah bah c'est bon, il suffit de 2 votes sur 3. Pas trop compris la question, mais si j'ai bien compris, tu poses un breakpoint sur l'adresse. Ouais, bon, ça c'est là. Tout à l'heure. Il y a beaucoup de jeunes gens qui aujourd'hui veulent direct faire cybersécurité, mais ils feraient mieux de commencer par être de bons admins, à mon sens. Ça se débat. Moi j'ai été sysadmin avant de faire de la. Ah, c'est cette quête là, d'accord. Donc faut suivre la boussole en fait. Vous avez une boussole dans votre inventaire. Et bah, il faut suivre la. Vers où est pointe. Du coup, oui. Moi, j'ai commencé en étant admin 6. J'ai commencé. Si vraiment on veut remonter à l'origine, petit Chaos à 5 ans, il programmait en basique. Donc, enfin, à 5 ans. Entre 5 et 10, j'ai fait du développement. Donc, on peut dire que j'ai commencé par être dev, mais bon, ça vaut pas grand chose. Donc, j'ai fait des études où j'ai appris à être dev, hein, y a pas de souci, mais professionnellement, j'ai été admin 6 avant tout. Donc, moi, c'est par là que j'ai commencé. Maintenant, après, voilà, les gens commencent par où ils veulent. Hein. En vrai, la cybersécurité, enfin, tout ce qui est hacking, attaque-défense, je l'ai appris en dehors du boulot, en fait. Hein, en dehors de l'école, en dehors du boulot. Donc, peu importe, hein, j'ai envie de dire. Vous venez par où vous voulez. Dans le fond, peu importe par où vous venez, du moment que vous êtes utile à votre prochain, en étant dans la cybersécurité. Il n'y a pas de souci. Moi, j'ai pas de. Enfin, voilà, les gens viennent d'où ils veulent, j'ai pas d'éthique là-dessus. Enfin, j'ai pas de restrictions. Au contraire, mon but, c'est d'ouvrir la cybersécurité à tout le monde. Donc. Plus les gens viennent de tous les milieux, mieux c'est. Hein. Ouais, ça serait bien l'île qui est devant nous, là, du coup. Je pense.
Ouais, je pense aussi.
Est-ce que la pratique de mise en place de Honeypot est quelque chose de courant dans les entreprises? Alors, ça dépend des entreprises. Dans les entreprises de cybersécurité, c'est pas forcément très courant en France, mais ça devrait le devenir. Ailleurs qu'en France, oui, c'est une pratique assez courante. L'Honeypot, c'est quand même un grand classique. Après, c'est plus quand même pour les entreprises qui font de la veille, tu vois. C'est pas forcément pour des entreprises de consultants où tu vas apporter un service à un client. C'est plus pour les boîtes qui vont faire de la recherche. Qui vont faire de la recherche de 0D, qui vont vérifier ce qu'il y a en cours. Typiquement, c'est un truc qui va être très utilisé par les compagnies d'antivirus aussi, pour savoir quelles sont les attaques en cours en ce moment, tu vois. Donc, sur ce genre de boîte-là, oui, les Honeypot, il y en a, c'est quasi obligatoire. Maintenant, si t'es consultant en cybersécurité comme moi, typiquement, ou même dans un cabinet, quoi, enfin, avec plusieurs, dans une entreprise avec plusieurs personnes, je suis pas sûr que le Honeypot soit toujours utile, quoi. C'est plus quand tu fais de la veille. Ouais, voilà, pour tâter un peu le terrain du marché, enfin pas du marché, mais de le climat de quelles sont les attaques en cours, qu'est-ce qui se passe en ce moment. Quoi. Tac, c'est pas CTF. C'est jeu aujourd'hui, tout à fait, c'est bien la nouveauté. En cas de cyberattaque dans une entreprise, les employés chargés de la cybersécurité sont-ils pris pour responsables? En cas d'attaque, alors la loi française dit que oui, mais pas tout seul en fait. C'est-à-dire que si tu te fais attaquer dans une boîte, alors attends, qu'on remette les choses en place. Si tu te fais attaquer, ça vient de l'extérieur. Le responsable, c'est l'attaquant. Hein, au niveau de la loi, c'est pas de ta faute si tu te fais attaquer. Par contre, toi, tu es tenu d'avoir fait un minimum de choses pour préserver de l'attaque. Encore une fois, je parle de la loi française. Hein. Notamment... Oula, je vais me faire péter la gueule. Voilà, ça c'est fait. Notamment, en fait, tu dois... parmi les exigences que tu as face à la loi, c'est si tu te fais attaquer, tu dois prévenir tes utilisateurs. il y a eu une fuite de données, s'il y a eu même, enfin, si potentiellement tes clients sont impactés, tu dois les prévenir. Déjà une chose, donc tu dois communiquer sur le fait que tu t'es fait attaquer. Une fois que tu as communiqué, tu dois tout mettre en œuvre pour bien gérer l'attaque. Donc pour ça, quand on dit tout mettre en œuvre, c'est en gros aller voir l'ANSI, faire appel à un prestataire. Enfin voilà, tu dois pas passer le truc sous silence, ça t'as pas le droit. À minima, tu dois avoir déclaré ton attaque à l'ANSI, quoi. Mais il faut qu'on sache que tu t'es fait attaquer. C'est con, mais c'est dans la loi, c'est comme ça. Après, que tu sois pas forcément au taquet en termes de cybersécurité en interne, c'est moins un problème. Enfin, on va pas te... La loi va pas te punir pour ça. Si t'as rien fait du tout, alors que tu sais que t'as des données bancaires, tu peux te faire taper sur les doigts parce que, je sais pas, t'as pas bien sécurisé un mot de passe, ou t'as une base de données ou qui est en clair, tu vois, les mots de passe sont en clair, tout ça. Ça, effectivement, t'as des choses à des exigences contractuelles. Si t'as des données bancaires, t'as un certain nombre de choses à faire pour les protéger, entre guillemets. Si t'as du médical aussi, tu as certaines exigences. Mais au-delà de ces exigences basiques-là, on va pas te taper sur les doigts si tu te fais attaquer et que c'est passé au travers, quoi, que t'as pas mis de bonne protection. Ce qui est important, c'est que t'aies fait l'effort d'en mettre un peu, quoi, et que t'aies au moins la base exigée par la loi, donc suivant le type de données que t'as. Mais dans l'ensemble, la loi française est pas très méchante, hein, sur ceux qui se font attaquer. Hein. C'est franchement, je sais pas, beaucoup tirer les oreilles. Même sur maintenant avec la RGPD, le RGPD, je sais jamais ce qu'on dit, mais enfin. Le, je pense. Avec RGPD, tu dois, voilà, tu dois au moins prévenir les gens, tu dois au moins faire de la com et faire l'effort minimum pour t'en sortir une fois que tu t'es fait attaquer. Mais même ça, c'est pas très respecté. Il y a jamais d'amende. Enfin, je veux dire, on voit des leaks tous les jours. Personne ne chope jamais vraiment d'amende pour ça, quoi. Donc, y a pas. Franchement, la loi est pas très méchante dessus, quoi. Enfin, la loi, si, papier, théorie, mais dans la pratique. C'est rare que... Enfin, toi, employé, il y a peu de chances que tu te fasses engueuler parce que... Enfin, si, par ton chef, mais pas par la justice, en tout cas. Voilà. Si t'as laissé passer un truc, c'est pas la justice qui va te foutre dedans.
La responsabilité sera toujours au management, de toute façon.
De toute façon, oui. Après, dans une boîte, c'est l'échelle de responsabilité, c'est logique. On a bien frotté, là. Alors, pour toi, est-ce que pour faire du hacking, on doit forcément avoir des notions de dev? Bah, c'est mieux d'en avoir un peu quand même. Moi, je fais souvent souvent les catch the flag qu'on fait ensemble, c'est du PHP, quoi. Donc, bon, le PHP, ça va, je connais. Après, il peut y avoir du C, tu peux avoir du binaire. Enfin, si, c'est bien d'avoir des bases quand même. Tu vas pas aller très loin si t'as pas un peu de connaissances de dev, quoi. Et t'iras pas dans les trucs très avancés, très complexes, quoi. Mais bon, après, t'as pas besoin de savoir un langage en particulier, c'est juste savoir en gros comment ça fonctionne, et puis pouvoir éventuellement scripter aussi, parce que quand même les langages de script, ça peut être utile. Python, Bash, tout ça. Mais bon, je sais pas. Ça vient naturellement, c'est ça que je veux dire. T'as pas besoin d'avoir une master en développement, que je n'ai pas typiquement, pour pouvoir faire du hacking, quoi. Y a pas de souci. Plus un état d'esprit ouvert sur cette partie-là et puis comprendre les principes, quoi. Voilà. Tu dois avoir un bon PR en place, mais même ça, c'est pas obligé. Hein. Ça dépend vraiment des contrats que t'as engagés. Moi, je sais que les PRA, c'était spécifiquement indiqué quand il en fallait un. Et donc, quand on en mettait en place un, mais c'est par rapport au contrat client que tu as. Hein, il n'y a pas d'obligation par la loi d'avoir un PRA. C'est juste que bah, toi, en tant que client, ça te fait chier si ton prestataire n'en a pas. Mais voilà, si tu n'as pas signé pour avoir un PRA, tu n'as pas de PRA. Hein. Voilà, c'est tout. Ça coûte moins cher. C'est plus bon marché, mais tu n'as pas de PRA. Tac, tac, tac. Alors, après, je continue. Vous êtes full dans les questions, là. J'espère que je vous explique bien. Si jamais vous trouvez que la réponse ne convient pas, vous en remettez une couche. Hein, n'hésitez pas. Hein. De ce que je comprends, il existe des assurances pour les cyberattaques qui souvent remboursent le coût des ransomware.
Il y a eu un très bon podcast là-dessus très récemment chez No Limit Sécu.
No Limit Sécu.
Ouais.
Sur les assurances.
Mm-hmm.
Et alors en gros, parce que moi, mon ma vision, mais qui est pas forcément bonne, c'est que en gros c'est juste pour le plaisir, t'as une assurance, mais en fait elle fait pas grand chose.
Mais souvent, il faut regarder ce que tu veux couvrir, mais généralement une boîte normale n'a pas spécialement besoin parce que les assurances qu'elles ont déjà pour y couvrir en fait.
Ah d'accord, c'est juste du marketing où ils te fourguent une option que t'as déjà quoi.
Genre ou ce genre de choses, là ça a peut-être du sens.
D'accord.
Si tu héberges des données pour un client, par exemple, là, ça peut avoir du sens.
Bon, cela dit, je vois mal une assurance rembourser le prix du ransomware. Elle va plus te rembourser un truc sur la valeur de ce que tu perds, mais elle va pas te payer ton ransomware. Ça, c'est pas... Vu que, a priori, toutes les instances officielles vont te dire faut surtout pas payer, moi y compris. Je veux dire, tout le monde va te dire faut pas payer. Ça m'étonnerait que les assurances te payent ce prix-là, quoi. J'ai un doute là-dessus. Après... Encore une fois, je ne sais pas, mais ça me paraît étonnant. Il y a quand même le béaba de la sécurité à mettre en place, peu importe les données gérées. Bah, honnêtement, d'un point de vue légal, hein, c'est toujours pareil. D'un point de vue légal, il n'y a rien vraiment d'imposé. Parce qu'en fait, tu as des lois qui s'appliquent spécifiquement pour, par exemple, les données personnelles maintenant avec le RGPD, pour les données médicales et puis pour les données bancaires. Donc, tu as trois textes pour ces trois types de données-là, qui te donnent un certain nombre de points, mais hors ces trois données-là, tu fais ce que tu veux, en fait. Il n'y a pas de notion de sécurité de base, en fait. En tout cas, dans les lois françaises, hein, encore une fois, c'est pas forcément vrai partout. Enfin, quoi que les RGPD, maintenant, c'est européen, c'est pour tout le monde. Je rectifie pour la partie RGPD Chaos, c'est la CNIL qui peut contrôler le SI, un binôme juriste info, et si elle se rend compte que la violation de données n'a pas été déclarée, elle sanctionne systématiquement. Et c'est ça, t'as une amende si t'as pas déclaré. Mais enfin, voilà, t'es en faute de pas avoir déclaré. T'es pas en faute de pas avoir sécurisé. Sauf données spécifiques. Quoi. Quoique, maintenant, si, avec les RGPD, sur les données personnelles, t'as un minimum aussi, pareil, à mettre. De ce que je constate, les petites violations de données sont généralement évaluées et notifiées à la CNIL. Ouais. Sinon, c'est quoi le but du jeu? Ben, on tue des squelettes, on ramasse des trésors et on va les vendre après, en fait. Là, on n'a pas grand-chose pour l'instant, mais... Un crâne, un coffre. On va pas devenir riche tout de suite. Hein. On est sur une quête. On cherche un trésor fabuleux en suivant la boussole magique. Rarement les gros. Ouais, ça dépend. Il y en a où les leaks sont vraiment tellement importants qu'ils ont le droit à se faire bien taper sur les doigts. Mais bon, c'est rarement. Par contre, le pourcentage du CA, c'est rare. Parce que ça représente une fortune, hein. Ça monte vite. En plus, la RGPD, alors ça, je sais pas si vous êtes au courant, mais ça implique non seulement celui qui se fait hacker, entre guillemets, enfin celui qui avait les données, l'hébergeur de données, mais tous les prestats au milieu qui ont traité les données. Donc quand on constate un défaut de sécurité sur des données personnelles, parce que voilà, des données personnelles ont fuité, celui qui va prendre sur la tête, c'est l'hébergeur, mais aussi tous ceux qui autour ont contribué à mettre ces informations-là disponibles. Toute la chaîne de commandement, en fait, enfin la chaîne de traitement, pour être exact. Donc toute la chaîne de traitement va être concernée et évaluée en termes de est-ce qu'ils ont bien sécurisé les données. Et pas juste le maillon final, si vous voulez. Donc ça peut aller loin et ça peut emmerder pas mal de monde. Tac, 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 qu'est-ce que j'ai... Alors aujourd'hui, c'est plutôt la perte de prod, non? Oui, ça c'est autre chose, le PRA c'est la perte de prod. Ça peut jouer aussi sur un cyber, hein, parce que quand tu te fais des doses, bah, c'est une perte de prod. Quand ton data center brûle, c'est une perte de prod aussi. Je pense que c'est cette île-là. On est juste à côté, là. Hop là, on va mettre l'encre. Ça se voit avec Facebook tous les ans. Ouais. Après, alors, RGPD, c'est particulier. Là, on parle des données, donc un type spécifique s'appelle les données personnelles. Et du coup, ça a apporté tout un tas de lois sur les données personnelles, mais uniquement celles-là. Rien d'autre. Alors après, bon, il faut évaluer. La loi, justement, indique qu'est-ce qu'est une donnée personnelle. Alors, il y a beaucoup de mauvaise foi hein, entre ce qui est vraiment ou ce qui n'est pas vraiment une donnée personnelle. Mais enfin, bon, théoriquement, il y a une définition des données personnelles. Et sur les données personnelles, tu dois définir... combien de temps tu les gardes? Alors déjà, qu'est-ce que tu gardes? Qu'est-ce que tu collectes? La liste de toutes les données personnelles que tu collectes. Combien de temps tu les gardes? Qui s'en occupe chez toi, quoi, hein? Quel est ton référent gères ces données-là chez toi. Quels sont donc tout ton espèce de... Alors, c'est pas un document unique, mais c'est un peu le même principe qu'on a en qualité ISO. C'est ton document qui a trait à tout ce qui est lié à ces données-là. Comment tu les gères, combien de temps, quelle sécurité, etc. Enfin, donc, t'as une espèce de document, normalement, qui contient tout ça, toutes tes procédures. Voilà, je crois que j'ai fait le tour, si je ne m'abuse. Et donc, tout ça, si ça n'existe pas, le jour où tu te fais contrôler qu'il y ait eu une attaque ou pas, tu te fais engueuler, quoi. Hein, mais tu peux avoir une amende. Mais c'est pas forcément lié à une attaque, c'est vraiment globalement, il faut que tu aies toutes ces informations-là sur les données personnelles. Hop là, attention, ça va péter. C'est le registre de données. Ah bah, c'est comme ça que ça s'appelle, ok. Là, tu es aussi. Oui, donc du coup, si tu présentes pas, effectivement. Alors Facebook. Alors du coup, tiens, Facebook. Je voulais vous parler de ça justement. Donc vous avez vu hein, cette semaine, on a encore eu un leak. Non, c'était la semaine dernière ou cette semaine, je ne sais plus. Il y a eu un leak entre guillemets d'informations de Facebook. Et donc Facebook s'est raccroché aux branches en disant que c'était pas une attaque. Enfin, c'était pas une fuite de données à proprement parler. C'était un scrapping. Et j'avais envie qu'on parle de ça un petit peu parce que vous savez ce que c'est que du scrapping déjà. Bon, pour ceux qui savent pas, en fait le scrapping c'est scrapping, c'est en fait ça consiste à récolter des données, à se constituer une base en grattant, hein, c'est le nom scrapping, ça veut dire gratter en anglais, en grattant au maximum ce que tu peux exploiter, ce que tu peux arriver à trouver comme données publiques. Donc c'est pas juste genre faire un grep, tu vois, chercher une page web et faire un grep dessus. C'est exploiter un peu toutes les mécanismes qui sont ouverts, qui sont publics, voire éventuellement un peu indirectement, pour essayer d'en collecter des données. Donc là, en l'occurrence, ce qu'ils faisaient pour Facebook, c'est qu'en fait, ils avaient une première partie des numéros de téléphone, donc qui sont fictifs ou alors qu'ils les avaient générés automatiquement, ça je ne sais pas. Et en fait, à partir de ce numéro de téléphone-là, ils utilisaient une fonction de Facebook qui est totalement ouverte, qui consiste à dire, est-ce que mes amis sont sur Facebook? Donc voilà mon numéro de téléphone. Est-ce que mes amis sont sur Facebook? Et en fait, à partir de là, ils pouvaient confirmer des numéros de téléphone d'autres personnes, des noms, des prénoms, et voilà, et comme ça, gratter d'autres informations qui potentiellement pouvaient être privées, fermées, mais qu'ils arrivaient quand même à accéder via cette API-là. Donc, qui est une fonction totalement ouverte. C'est, en fait, quand vous créez un compte, il vous dit, hein, donnez-moi votre carnet de contact, je vous dirai si vos amis sont dans le coin ou pas, quoi. Et donc, voilà, ils scrapent dans le sens où ils vont pas juste regarder la page web, ce qui est déjà une forme de scrapping, si on veut, où tu regardes la page puis tu extrais des données, mais ils vont aussi gratter un peu tous les trucs autour pour récupérer des infos. Donc, c'est des infos qui sont potentiellement incomplètes, ils aspirent pas toute la base, mais voilà. Mon bateau s'en va sans moi, c'est moche. C'est moche ce que vous faites là.
On a oublié quelqu'un.
Tant pis, je prendrai la sirène, c'est pas grave. Et du coup, voilà, le scrapping te permet de récolter quand même pas mal d'informations, mais sans attaquer à proprement parler. Et donc, du coup, moi, j'avais envie d'avoir un petit peu votre avis là-dessus. Est-ce que ça relève du hacking, alors au sens attaque, hein, mais est-ce que c'est une attaque, un scrap? Et c'est, pour moi, c'est pas si évident que ça. Donc, je sais pas ce que vous en pensez, vous. Merci pour le follow, I'm back.
Je trouve que ça se rapproche plus de l'enceinte, en fait.
C'est ça, Jack, ça. C'est qui part au milieu, quoi.
C'est une API non prévue.
Bah, c'est de l'osint, mais poussé au bout, quoi.
Ouais, c'est ça.
En soi,
le... ils avaient tout à fait l'autorisation d'utiliser l'API, c'est juste qu'ils ont utilisé le max, quoi.
Oui, c'est ça, ils ont tapé dedans. C'était une interface ouverte qui permettait de faire ça, quoi. En soi, le scrap est interdit d'après la politique dev de Facebook. Oui, mais alors attention. Ce que écrit les conditions générales de vente de Facebook, c'est pas la loi. Hein, donc, ça n'a pas vraiment grande valeur dans le débat qui nous intéresse. C'est comme les jeux vidéo qui te disent que t'as pas le droit de, je sais pas, de faire du reverse sur ton jeu. Si ton jeu il est chez toi, il est dans, sur ton ordinateur et que tu fais rien de mal après ton reverse, t'as le droit de reverse tout ce que tu veux. La loi prévoit une l'autorisation de faire du reverse à des fins éducatives. Par exemple, moi j'ai déjà reverse des trucs dans Sea of Thieves pour voir un petit peu les modèles 3D, tout ça. Même si, quand bien même ce serait écrit que j'ai pas le droit, j'ai le droit. La loi m'autorise à faire ça pour m'amuser. Donc j'en fais rien derrière, vous voyez, si j'attaque pas, quoi. Mais le simple fait de démonter ton objet que tu as acheté toi, bah, il est à toi. Donc tu fais ce que tu veux, en fait. Ah, il y a un canon.
J'ai tiré l'encre, hein.
Perdu chaos à nouveau.
Ouais, j'ai ramassé une gemme, j'ai vu de l'or, moi je me suis précipité.
J'ai l'encre.
Donc du coup, est-ce que pour vous, le scrap, c'est du hacking? Ou est-ce que c'est juste de la collecte de données en source ouverte, quoi, de l'osint, typiquement?
Ah. Bah,
pour tout vous dire, en fait, parce que je vois la question de Ashlex, là, qui se pose la question de la finalité, à quoi va servir le scrap derrière, c'est ça? Parce qu'en fait, moi, j'ai connu une époque où ce qu'on appelait le scrapping, c'était pas ça. C'était vraiment littéralement, par exemple, récupérer des numéros de téléphone d'un site web. Donc là c'était du grep, quoi, hein. C'était vraiment tu en masse tu récupérais des URL. C'est souvent en masse, hein. Quand on parle de scrapping, c'est souvent des histoires de masse, mais en masse ils parcouraient internet et ils récupéraient des noms, prénoms, numéros de téléphone. Voilà, ils se constituaient un annuaire. Et ça c'était considéré comme du scrapping à l'époque. Donc il y avait même pas d'histoire d'API ouverte, mal configurée ou que sais-je, c'était vraiment purement le site web, on récupère tout ce qu'il y a comme information sur la page, quoi. Clair que c'est de l'osint. Ouais, c'est ça, ça ressemble plus à l'osint, pour le coup. Maintenant, là, c'est vrai que le scrapping de Facebook est un petit peu plus... c'est moins osint, quoi, on va dire. Ça pose... Donc, clair que c'est de l'osint... Si c'est pour toi pour t'amuser, ok, mais si c'est pour faire des campagnes de phishing, bah c'est ça, après voilà. De toute façon, une fois que tu tapes du phishing, enfin je veux dire, en soi, le phishing étant condamné, il n'y a pas de problème, hein, c'est ça devient tout de suite illégal. C'est pas le scrapping qui est illégal, c'est le phishing derrière, quoi. Bah de toute façon, moi je considère, enfin c'est là où c'est compliqué, parce que du coup Facebook s'est défendu en disant c'est pas de notre faute, on n'y est pour rien, voilà, on n'a rien fait. Et ce qui est d'une part vrai, mais un peu facile, quoi.
Ouais, c'est ça.
C'est ça qui est en milieu, en fait. C'est que, certes, c'est...
Ils n'auraient pas que c'était possible, en fait, de remonter.
C'est là où c'est un peu compliqué, du coup. Parce que, après, ouais, ça, c'est une sorte de crawler, tout à fait, Dr. Lux. C'est du crawler un peu intelligent qui va récupérer des informations, quoi, pour constituer une base. Mais du coup... Si on dit à Facebook, bah oui, c'est pas de ta faute, bah ça veut dire qu'il va jamais faire gaffe à ses données personnelles, quoi. Il faudrait quand même qu'il mette un peu des choses, quoi.
Ça, est-ce que Facebook aurait dû empêcher les scripts bah, c'est pas facile, hein.
Bah après, là, après, on en vient sur une autre problématique qui est comment ils gèrent les données personnelles, quoi. Qui est tout un autre sujet, mais.
Mais c'était utilisé, hein, de taper un numéro de téléphone dans le login et voir la tête du gars.
Oui, c'est un gros classique. Bah, typiquement, la semaine dernière, sur le cache de flag qu'on a fait, on aurait pu faire, entre guillemets, du scrapping, parce qu'il y avait une interface de login admin. Non, j'ai paumé le bateau. Il est où le bateau? Il est là-bas. Il y avait une interface de login admin où, en fait, quand tu mettais tu pouvais essayer plein de numéros, c'était que des chiffres. Et si tu mettais le chiffre, en fait, il te disait à qui ça correspondait, même si tu n'avais pas le bon mot de passe. Donc du coup, tu pouvais lister comme ça tous les utilisateurs, et sans forcément mettre de mot de passe ou quoi que ce soit. Et donc du coup, c'était une forme de scrapping, pour le coup. Pour avoir vécu du gros scrap dans mon boulot, oui, on peut considérer comme une attaque, car ça met aussi en danger ton infra. Ah oui, après, si ça tape vraiment fort en termes de crawler et de choses comme ça... Ouais. Après, la problématique, c'est que c'est plus toi qui gères mal tes données, quoi. C'est ça qui est chiant. Alors, ma problématique, c'est que d'un côté, j'ai pas envie de dire c'est la faute de l'attaquant. Hein, parce que à la limite, t'as peut-être une raison légitime de scraper des informations. J'en ai déjà vu, hein. Alors, attends, faudrait que je retrouve un exemple. Évidemment, il va pas m'en venir à là. Mais, oula, le bateau, il a pris là? Non, c'est bon. Non, c'est bon, il a rien sorti. Mais pour te constituer, je sais pas, typiquement aussi, pour des données, par exemple, qui devraient être open source, des données du gouvernement, tu peux avoir des sites où en fait, c'est pas en open data, mais c'est une donnée publique, et le site est super mal foutu, tu peux pas récupérer un CSV ou des choses comme ça, et là, tu vas scraper la donnée pour en fait, après, l'intégrer. Bah si, tiens, attendez, j'ai un exemple tout bête. Là, vous voyez le compteur Tipeee, là-bas les 24%, les 12%, là, tout ça. Bah ça, c'est du scrapping, par exemple. Parce que je vais aller chercher... Alors, en fait, il va faire un conglomérat de plusieurs données qui viennent notamment de Tipeee et d'Utip. Donc là, il y a des API. Mais il va aussi chercher mon nombre d'abos, mon nombre d'abonnés Twitch. Et en fait, le nombre d'abonnés Twitch, il n'y a pas d'API ouverte, simple à utiliser. Tu es obligé d'avoir une authente avec un jeton. Enfin bon, c'est une galère. Et moi, je voulais faire un widget qui est utilisable par tout le monde, tu vois, où tu n'es pas obligé de mettre des authentes. Et donc, en fait, j'ai scrappé un site qui, lui, a les autorisations pour afficher les subs des gens. Donc, en fait, c'est un scrap d'un site web. Donc là, typiquement, voilà, il n'y a pas d'API pour attaquer la donnée. C'est une utilisation, entre guillemets, a priori légitime pour moi, où tu récupères une information d'un site et tu la réintègres ailleurs. Donc c'est du scrapping. Donc voilà, il peut y avoir des vraies utilisations de scrapping, pourquoi pas. Ah, du coup, faut aller à Mermaid, c'est ça?
Ouais, c'est à l'est.
D'accord, à l'ouest. Ouais,
l'ouest.
Sauf que dans ton cas chaos, tu ne fais que récupérer des données qui appartiennent. Oui, mais ça pourrait être avec des données, je sais pas, du gouvernement, des trucs comme ça, tu vois, des données publiques. Avant que ce soit fourni en open data, il y a beaucoup d'outils qui vont aller taper. Je sais plus, je me demande si les horaires TGV, ils faisaient pas ça à une époque. Enfin, il me semble qu'il y avait des applis comme ça ou qui allaient récupérer les informations des trains. Bon, bah, les informations des trains, c'est des données publiques. Sauf que, bah, il y avait pas d'API pour les intégrer, tu vois, donc ils allaient scraper des trucs. Éthiquement, c'est pas mal limite. On semble être dans une zone grise. Bah, moi, je vois. En fait, si tu veux, en soi, la technique me semble pas illégale. Bon, encore une fois, c'est mon avis. Hein. Ah, bah, faut faire gaffe. Il va se méfier de nous parce qu'on est plus gros, mais méfiez-vous si vous voulez faire du PVP. Donc voilà, la technique en soi me semble pas illégale. Par contre, ça pose question sur comment sont gérées les données de l'autre côté, quoi. Voilà.
J'ai une question de noob, qu'est-ce que je fais avec le truc que j'ai en main, je sais pas le mettre.
C'est quoi que t'as dans les mains?
Une gemme.
Je l'ai en main avec le coffre.
T'as le poser, tu le poses n'importe où.
J'arrive pas à le lâcher.
C'est XX pour lâcher.
Ah.
Scraper des données pour se faire un fichier d'adresse qui est normalement payant. Alors là oui, évidemment, ça va pas. Mais quand c'est de la donnée publique, c'est juste, tu vois... Quand c'est un scrapping juste pour pallier à une mauvaise interface, donc la problématique après est résolue avec de l'open data, mais toujours, enfin, il n'y a pas toujours de l'open data de dispo. Mais du coup, voilà, scraper de la donnée publique, est-ce que c'est vraiment mal, quoi? Merci pour le follow, Muel875. Oh, là, ça y est, merci pour le follow, Voidtech. Donc voilà, quand j'ai vu l'info, je me suis dit, bon, tout le monde va parler de la partie c'est une attaque, Facebook s'est fait attaquer et tout, etc. Qui n'a pas manqué, hein, les journaux ont tous fait leur gros titre dessus. Et pour moi, la problématique, elle n'est pas là, en fait. Elle est pas sur le fait qu'il s'est fait scraper, c'est pas gênant en soi. Moi, c'est plus, on n'aurait pas dû pouvoir le scraper. Enfin, c'est même pas ça. Et Facebook gère très mal la donnée privée, quoi. Mais ça, c'est notre débat. En fait, le problématique de ces modèles-là, c'est qu'à la base, c'est foutu dès le départ. T'as filé ta donnée privée à quelqu'un d'autre. À un moment donné, il finira par la perdre. Il finira par la... Même sans le faire exprès. Et donc, du coup, c'est... Déjà, de base, c'est pas bon, quoi. C'est pas le bon modèle. Merci pour ton follow, Géduzor. Ce que ça pose comme question, pour moi, à mon sens, d'un point de vue éthique, encore une fois, c'est que le modèle comme quoi on copie nos données privées à des tiers, on leur donne une copie, c'est pas la bonne méthode, en fait. Oh, j'ai peut-être été un peu fort, oui, on a gratté un peu, c'est pas grave. En fait, ce qu'il faudrait dans l'idéal, mais alors bon, c'est extrêmement utopique, hein, attention, mais dans l'idéal, ce qui serait sympa, c'est d'avoir un système où, en fait, la donnée privée,
que vous voulez
toi Elle est dans tes mains. Elle est en ta possession. Et en fait, tu n'octroies qu'un droit d'usage à un tiers. Et en fait, tu donnes jamais ta donnée, en fait. Imagine, par exemple, t'as une espèce de boîte. T'as une boîte à toi, avec toutes tes données privées dedans. Et on est dans une société science-fiction qui n'existe pas. Hein, mais t'as une boîte noire qui est à toi. Et en fait, tout ce que tu fais, c'est que tu autorises des gens à regarder dedans quand ils en ont besoin. Mais jamais à recopier ce qu'il y a dedans. Juste à regarder dedans quand ils en ont besoin. Tu donnes une autorisation. Une autorisation que tu peux révoquer après quand tu veux. Mais quand tu révoques l'autorisation, ta donnée, elle est toujours chez toi. En fait, jamais tu donnes ta donnée. Voilà. Ça, ce serait une autre façon d'envisager les données privées qui permettrait de contrer ce genre de choses sur le scrapping, sur les choses comme ça. Mais on est, ce serait, c'est un monde utopique parce que ce serait des données que tu devrais pas avoir le droit de les recopier. Tu vois, à part les NFT peut-être maintenant, mais ça n'existe pas les données que tu peux pas recopier numériquement. Donc peut-être avec du NFT, mais bon, ça me ferait un peu chier de mettre du NFT là-dedans. Mais enfin, dans l'idée, c'est ça, quoi. C'est t'as une boîte noire, un peu comme la carte vitale. Exactement, oui. Je crois que c'est le même fonctionnement, effectivement, de la carte vitale. Ton médecin, il a pas ta donnée. En fait, il lit ta carte vitale et voilà, il a la donnée. Alors évidemment, personne n'empêche un médecin malveillant de recopier ta donnée. Mais de base, il a pas à le faire, en fait. Il a juste à... Hop là, il faut descendre dans la truc parce qu'on a que 3 minutes pour... ramasser les coffres. Ah, c'est déjà ouvert? Oh là là, t'as été trop vite là. Faut vite sortir tous les coffres. Putain, mon PC il rame là.
Dans le trou qui s'est ouvert.
Faut que tu viennes, Asborg.
Oui, faut aller dans l'eau. Ouais. Okay.
Faut sortir les coffres, on prendra l'heure après.
Je vais essayer de trouver les médaillons.
À quoi ça sert un médaillon ?
C'est pour ouvrir un coffre spécial qui vaut plus cher.
Ah.
Attendez, je me concentre 2 secondes là-dessus, parce que c'est important. Pour mon équipage, je reviens au chat juste après. Je reprends ma démonstration. Où sont les autres médaillons ? Je sais pas depuis combien de temps tu l'as ouvert, il y a 3 minutes en fait, il reste ouvert le machin. T'as pas mis de chrono ?
Non.
Je sais pas où on en est en fait des 3 minutes.
Allez.
J'espère du moins.
On est sous l'île en fait, on est dans une grotte. Je vais essayer de brute forcer le truc. Couronne. Donc couronne. Couronne. Il y a 2 choix possibles. Donc soit c'est tickle. Horizontale. Excusez-moi le chat, hein, je me concentre. J'essaie de résoudre des énigmes. Et qu'on est sous un chrono. Non, c'est pas ça, donc c'est l'autre. Donc c'est clé vers le bas. Et un truc. Clé vers le bas. Un truc. Non, c'est pas ça? J'ai raté. Ah merde, j'ai pas mis la couronne devant. Putain, je suis... C'est l'autre. Hop. Le brute force un coffre. Bon, j'ai mis la couronne. C'est bien la couronne. Ça, c'est bon. Putain, j'ai raté. Qu'est-ce que j'ai raté? La couronne. Deux verticaux, un horizontal. Donc, ça, c'est pas la bonne combinaison. Donc, du coup. Oui, c'est ça. Si, c'est ça. Voilà. Hop là, ce coffre-là, il vaut plus cher. Hop. Je ramène le coffre. Ah, je te laisse vider le reste.
Il reste plus que l'or.
Ok. Bon, au moins, on aura sorti le gros coffre. Plouf, plouf, plouf. Le fait de s'amuser n'est pas un bon motif. Bon, en tout cas, effectivement, le scrapping, pour moi, c'est une zone grise. Hein. Bon, après, si j'en juge par les précédents dans la loi française, même un Headmap, tu peux te faire condamner, même un Google d'un site, tu peux te faire condamner. Donc, on va dire que c'est le scrapping, tu peux sûrement te faire condamner. Hein, y a pas de, Pas de souci là-dessus. Il y a la fameuse affaire Bluetooth hein, où il avait trouvé des documents confidentiels, mais ils les avaient trouvés sur Google, quoi. Hein. Donc, voilà. Il avait rien attaqué. Il avait trouvé des informations et ça avait suffi pour le faire condamner. Donc, c'est en termes de jurisprudence, oui, tu vas te faire toper de toute façon. Les comparateurs font du scrapping de données. Ouais, c'est ça. Mais ils contractualisent avec leurs partenaires. Ils utilisent peut-être des API. En fait, quand tu utilises des API, c'est différent parce que utiliser une API, ça montre que le prestataire a mis en place une interface pour le faire, quoi. Hein, donc c'est particulier. Donc ouais, je vois dans le chat, il y en a qui disent c'est légal, d'autres non. C'est pour moi c'est au milieu, mais bon voilà. Alors pif paf pouf. Donc oui, ce que je disais avec mes histoires de données là, hein, l'idée ce serait de passer d'une économie de on copie les données à une économie de on donne des autorisations d'accès à nos données. Ce qui est franchement.
Faudrait que tout le monde ait un serveur, hein.
Bah c'est ça. Et après, il faut réfléchir à comment tu possèdes ta donnée déjà au départ, quoi. C'est pas évident. Utiliser un crack d'un logiciel payant, bypasser une licence pour des utilisations personnelles sans partager en public, est-il légal ? Alors, utiliser un crack d'un logiciel payant pour des utilisations personnelles sans partager en public. Non, ça c'est pas légal. C'est pas légal, puisque tu as modifié un logiciel que tu ne possèdes pas. Quand je parlais tout à l'heure, par exemple, quand j'ai reverse Sea of Seas, je l'ai pas modifié et puis je le possède, je l'ai acheté. Donc si tu en fait si par contre c'est un jeu que t'as acheté et que tu mets un crack, je faisais ça en fait il y a un bout de temps maintenant, mais j'achetais des jeux, mais c'était à l'époque où il fallait mettre le CD dans le lecteur quoi, hein, et c'était chiant de mettre le CD, donc souvent même les gens qui achetaient des jeux, ils mettaient un crack no CD dessus pour pas avoir à mettre le CD dedans parce que c'était chiant. Et ben ça pour moi, c'est totalement légal dans le sens où tu as acheté le jeu, quoi. Tu l'as physiquement, tu as ton CD, tu as tout ce qu'il faut. Donc, y a pas de. Tu l'as payé, tu le possèdes, tu as le droit. Alors maintenant, posséder, c'est plus si évident que ça. Par exemple, quand tu achètes un jeu sur Steam, tu le possèdes pas vraiment. Enfin, sur Steam, pardon. Tu le possèdes pas vraiment, tu le loues, quoi. Hein. Bon, c'est différent. Mais quand on parle de choses physiques que tu as achetées, là, il n'y a pas de souci, tu as le droit de craquer ce que tu veux. Par contre, tu n'as pas le droit de craquer un logiciel que tu n'as pas payé. Ça, c'est la base. C'est, pour le coup, là, c'est illégal total. Il n'y a pas de problème là-dessus. Tu ne l'as pas payé. Tu ne le possèdes pas, tu n'as pas le droit de le craquer. Même si tu n'en sers que pour toi. Tu auras quand même réussi à hacker aujourd'hui. Ouais, j'aurais brute forcé un cadenas, c'est vrai. En fait, normalement, dans la fosse où on était, là, il y a trois médaillons. Une fois qu'on a tous les médaillons, on a le cadenas, quoi. Mais bon, là, j'ai deviné le reste tout seul. Sans mettre tous les médaillons. Poussons encore la réflexion de là. C'est pas parce que tu as tes données de manière privée que ça empêche une entreprise de faire un profil avec la manière dont tu utilises le service. Ce que fait plus ou moins Google. Ouais, bon, ça, c'est pas gênant. En fait, c'est, tu as ta donnée privée. Mais ce que ton interaction avec Google, typiquement, il a le droit de posséder la donnée sur comment tu interagis avec. Enfin, là-dessus, ça me choque pas que Google collecte mon usage chez lui. Parce que c'est mon usage chez lui. Donc, c'est sa donnée, c'est pas la mienne, en fait. Enfin, c'est notre donnée, si on veut. Voilà. Mettez le même Bugs Bunny, notre donnée. Mais, c'est pas ma donnée. Ma donnée, c'est mon numéro de téléphone, ma date de naissance, je sais pas, mon signe astrologique, j'en sais rien. Enfin voilà, la couleur de mes yeux, ma biométrie, tout ça, c'est ma donnée. Mais quand je vais sur Google, les recherches que je fais dans Google, c'est la donnée de Google. Enfin, c'est notre donnée, c'est la donnée d'usage. Et celle-là, pour moi, c'est pas choquant qu'il la possède. J'ai aucun problème là-dessus. Enfin, j'ai aucun problème. C'est encore une fois, après, il faut aussi qu'il la sécurise, qu'il en fasse plein de choses. Mais en soi, dans ce modèle-là, c'est pas choquant. Voilà. Enfin, en tout cas, pour moi. Certes, tu n'as pas le droit, mais personne ne sera au courant. Ben, ça, moi, je me permets pas de vous conseiller des trucs illégaux. Donc, vous faites ce que vous voulez. Hein. Encore une fois, je vais pas vous fliquer. Hein, c'est pas mon truc. Moi, en tant que figure publique qui vous parle de hacking, je vais pas vous encourager à faire des trucs illégaux. Voilà, c'est tout. Et vous faites ce que vous voulez. Je suis pas votre mère. Le problème, c'est que tu sais pas vraiment ce qu'il possède, en fait. Bah, il possède toute interaction que tu fais avec eux. Voilà. Après, moi, mon problème, là, de ce que je vous dis avec cette histoire de boîte noire, c'est plus les données qu'on leur donne. Pas en termes d'usage, pas les recherches qu'on fait dans Google, mais véritablement les données qu'on donne. Donc, ça va être les... genre, il va me demander ma date de naissance alors qu'il n'en a pas besoin. Il a juste besoin de savoir si je suis majeur ou pas, mais il n'a pas besoin de ma date de naissance. Si jamais je lui mets de la biométrie, il va stocker ma biométrie quelque part, alors qu'il ne devrait pas. Il devrait juste avoir un accès à ma biométrie. Vous voyez, c'est ça la différence dans le modèle que moi j'envisage, mais je suis pas, hein, voilà, c'est pas moi qui décide comment est foutu le monde. mais dans l'idéal, une société où les données privées sont pas un problème telles qu'elles sont aujourd'hui, ce serait une société où tu ne copies pas la donnée privée, mais tu donnes juste des autorisations d'accès. Encore une fois, c'est le monde idéal, quoi. C'est comme quand tu es en couple, les moments passés ensemble appartiennent aux deux. Exactement. Exactement. On va vendre, là, du coup ?
Bah ouais, non.
Tout ça ?
En face.
Ah oui, impeccable. Golden Sand. Est-ce que vous êtes... Alors, Chaos, penses-tu qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre spécialisée en défense dans les entreprises orientées Blue Team, pas simplement des informaticiens installateurs de boîtes? Alors, on en avait déjà un petit peu parlé dans les Pirate Talk d'avant. Mon avis là-dessus, c'est pas tant qu'il manque de main-d'œuvre, c'est que les entreprises veulent pas en payer, en fait. Des gens qualifiés, c'est pas ce qui manque. Et y compris des gens compétents, pas forcément qualifiés parce que il n'y a pas toujours eu de diplôme, mais c'est pas ce qui manque. Après, les entreprises préfèrent utiliser la main-d'œuvre qu'ils ont en interne plutôt que d'augmenter leur effectif. Mais ça, c'est valable dans des milliards de domaines. Hein. Pourquoi payer deux gars pour faire deux tâches quand tu peux payer un gars faire tout seul 10 tâches? C'est tellement la tendance en ce moment, quoi. Souvent, on met 36 casquettes sur le même gars, on le paye pas plus cher et on s'étonne qu'il y ait des burn-out. Mais bon, c'est la tendance actuelle. D'optimisation des profits. Voilà. Et en disant ça, je suis pas contre le libéralisme ou quoi. Enfin, si aussi, mais pour d'autres raisons. Mais c'est pas une critique du capitaliste. Je veux dire, les sociétés ont le droit de faire du fric, mais c'est pas efficace pour moi. C'est pas du tout pertinent. Quand tu mets une pression de fou sur un mec et qu'il finit par craquer, au final, tout ce que t'as gagné, c'est que t'as perdu un mec, quoi. Alors que t'aurais embauché trois gars pour faire trois tâches différentes, elles seraient beaucoup mieux faites d'abord, et puis au final t'aurais pas tant perdu d'argent que ça. Enfin, c'est des économies de bout de chandelle, quoi. C'est comme si dans ta boîte tu disais j'achète plus de fournitures bureautiques, j'achète plus de stylos, plus de crayons, plus de gomme, c'est les employés qui les amènent. C'est débile. C'est des économies qui servent à rien, quoi. Donc moi, quand tu remplaces trois postes par un seul gars qui fait les trois postes, je considère que c'est des économies qui servent à rien et qui se payeront un jour ou l'autre, quoi. Parce que t'es pas efficace, pas aussi efficace que trois gars, quoi. Même si t'es super balèze. Les annonces d'emploi en informatique, c'est clair qu'il y a de l'abus. Ouais, clairement. Enfin, mais c'est pas qu'en informatique, hein, honnêtement. Franchement, pour avoir des visions, serait-ce que par mon couple et puis dans d'autres endroits, la tendance globalement dans les boîtes, dans les petites boîtes, on va dire que c'est dans l'ADN d'être un peu actif partout, de faire plein de choses différentes, mais même dans les grosses boîtes, ils ont tellement une peur d'avoir des employés, la masse salariale est tellement une crainte pour les entreprises actuelles, pour des raisons historiques mais complètement connes. La masse salariale, c'est l'ennemi, vous voyez, c'est le coût salarial, c'est l'horreur. Donc ils préfèrent mal faire le boulot et mettre qu'une seule personne que bien faire le boulot avec trois personnes. C'est très con, mais c'est comme ça. Et c'est là qu'est venu, effectivement, les DevOps, les SecDevOps, je sais plus qu'est-ce qu'on m'a dit l'autre coup. Je crois que c'est ça, DevSecOps, un truc comme ça.
Puis SecDevOps.
le gars qui fait tout, quoi. L'homme orchestre. Ouais. Alors autant en auto-entrepreneur, je comprends, c'est tout à fait normal, mais dans une grosse boîte, c'est ridicule. Merci pour ton follow, Wilderness. Non, Wildburness, pardon, excuse-moi. Allez, allons ramasser le pognon. Putain, mon jeu, il rame, là, ce soir. Coucou Chaos, et bah coucou Yves. Merci d'être venu. On n'est pas loin de la fin, là, hein, mais merci d'être venu. On va vendre, on va récolter. Pour une fois, c'est un live Pirate Talk où on vend des trucs. C'est rare. Mais DevSecOps, c'est pas un mec, c'est un concept, une méthodo. Alors, bah écoute, tu vas voir que dans des boîtes, ça va être un mec. Effectivement, ça ne devrait pas, mais ça va être un mec. Alors, évidemment, c'est pas vrai. Enfin, DevSecOps, c'est une méthode, mais en fait, c'est un mec qui va faire le boulot du dev, qui va faire le boulot de la sécu et qui va faire le boulot d'admin. Et du coup, il va probablement faire mal deux de ces boulots-là. Voilà. Après.
Être une équipe. Ouais.
Les bonus de chaque bug. De quoi ? Les bonus de chat bug. Ah, excuse-moi, t'as demandé un truc et je l'ai pas fait. C'est ça ? Non ? On peut pas les récup. Bah, je sais pas, t'as demandé quoi ? Ashlex, j'ai pas vu. J'ai passé DevOps en décembre, c'est pas la philosophie du tout en tout cas. Alors après, c'est toujours pareil, t'as le marketing. Hein. Moi je te parle pas de la philosophie du principe de DevOps. Je te parle de concrètement, qu'est-ce qu'on fait quand on a des DevOps ? Bah on arrête d'avoir des admin 6. Voilà. Et c'est tout. C'est aussi bête que ça. Plus t'as de DevOps, moins t'as d'admin 6. Et donc, en fait, tous tes devs sont devenus des DevOps et t'as économisé sur les admin 6. Voilà. Concrètement, pour une entreprise, c'est ça qui va se passer. Après, oui, il y a sûrement une philosophie derrière qui n'est pas du tout ça. Mais dans le concret, c'est ce qui se passe. C'est tout. Et je maintiens, mais ça, j'avais déjà dit dans un autre Pirate Talk, et il me souvient que vous n'étiez pas tout à fait d'accord avec ça. Je maintiens qu'un DevOps sera jamais un aussi bon admin qu'un admin. Et bon, ça, c'est mon point de vue d'admin. J'ai été admin 6, donc c'est pour ça, pour moi, oula, mon jeu a planté carrément. Tout a planté, l'ordi a planté, non ? Vous êtes là encore ?
Je suis là.
Vous êtes ouais. Tous là ? Bon, c'est juste mon ordi qui en peut plus de la vie.
Je suis en train de voir qu'est-ce qu'il faut faire avec le reste.
Hein. Ouais, je sais pas ce qu'il... Oh putain.
Le saphir de sirène, il faut faire quelque chose avec ?
Alors, je n'ai plus rien sur mon écran, je ne sais pas si vous m'entendez encore, si quelqu'un peut regarder le retour de live. Est-ce que le live nous fonctionne encore ?
Ouais.
Et du coup, vous voyez la caméra qui bouge ?
Les doigts en l'air.
Les doigts en l'air, d'accord. Bon, bah, moi, je vois plus rien. Bah, écoute, je vais faire un live en aveugle, alors. Du coup, je vois plus vos questions. Attends, si je peux le savoir.
Est-ce que tu as essayé d'éteindre et de le rallumer, demande LCAP 4.
Non, mais je sais pas ce qui se passe, là, mon ordi, là.
Ah, voilà. De retour.
Est-ce qu'on est bon, là ?
Dans le live. Okay.
Me revoilà. Excusez-moi, je me suis pris un vieil écran bleu de la mort. Bon, de toute façon, on avait fini, hein, mais c'est du coup, j'ai pas eu le droit au sous. on a gagné plein de coffres, je les ai pas, j'ai pas touché l'argent. C'est dommage. Bon, c'est pas grave. Sûrement, c'est le jeu, de toute façon. Non, mais c'est pas grave. Je m'en fous, j'en ai plein.
Je vais les planter aussi maintenant. Ah non, c'est bon. C'est juste mon PC qui rame comme pas possible.
Vous me voyez dans le chat, là, c'est bon ? Ouais, le bug, ça a l'air d'être bon. Là. Je suis en live.
Je sais pas si t'es en live.
On me dit que oui, c'est bon. Je relance le jeu pour dire, mais bon.
Je te vois boire ta gourde, là. Ouais.
De toute façon, on était sur la fin, il n'y a pas de souci. C'est juste le justement, il a dit, oh là, c'est l'heure. Il faut arrêter maintenant, monsieur. Bah en tout cas, j'ai plus Clem mes points de chem. Ah bah écoute, tant mieux. As-tu un PC à Chaos ? Non, j'ai pas de PC. Ah oui, tiens, du coup, je vois un peu le chat que j'ai raté. Bon, de toute façon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. De toute façon, je rejoins juste mes camarades pour que vous voyez quelque chose de plus sympa à l'écran. Donc voilà, pour ceux qui connaissaient pas les Pirate Talk, hein, voilà, c'est notre 6e 6 ou 7, je ne sais plus. Mais en tout cas, voilà à quoi ça ressemble. Et normalement, ça ne crache pas à la fin. Ça, c'est un bonus. C'est pour le plaisir. Du coup, la semaine prochaine, ce sera donc ce fameux live spécial. Hein ?
Mais on peut cramer le bateau, si tu veux.
Oui, oui, vous pouvez cramer le bateau. Du coup, la semaine prochaine, ce sera ce fameux live spécial qui va être de la sécu tout en n'étant pas de la sécu, enfin, qui en tant que pas un CTF, en tout cas, ça c'est sûr. Je vous laisse la surprise. Est-ce que je vous donne un petit indice ?
Il crame vraiment le bateau là.
Bah ouais.
Je vais descendre de ce bateau.
Je vais vous mettre un indice. Hop là. Vous voyez ça là dans mes mains ? Hop. Hop, hop, on ne voit plus. Voilà.
Une disquette. Ah non.
Je vous ai montré un truc. Bon, après, vous regarderez le replay. Je ne sais pas. Vous ferez des clips comme vous voulez. C'est un indice sur ce qui se passera la semaine prochaine. C'est aussi un indice d'ailleurs sur ce que vous pouvez gagner. Parce que du coup, hop là. J'en ai trop montré. Ce que j'avais dans les mains, justement, j'en ai deux. Et il y en aura un qui sera à faire gagner du coup. Donc, ce sera le live de la semaine prochaine. Donc, dimanche prochain, on sera le 18. De 17h à 18h, bien sûr. Je sais pas combien de temps ça prendra d'ailleurs. J'ai essayé de tenir dans les mêmes horaires, mais on verra, peut-être ça débordera. Ça sera collectif, hein, donc n'hésitez pas à être dans le chat. Peut-être je mettrai le Discord. Oh, je sais pas si on mettra le vocal. Non, ce sera que du chat écrit. Mais tout le monde participera. Ouais, ce sera un jeu. En gros, ce sera vous contre moi. Hein, en gros, pour faire simple. Ça rappellera pour ceux qui ont déjà fait du jeu de rôle. Ça, je serai le MJ et vous serez les joueurs, quoi, hein, globalement. Donc du coup, ça c'est la semaine prochaine, et puis dans 15 jours, nouveau Pirate Talk, on repart pour un tour, bien sûr. Il y a le feu derrière toi, il y a le feu là. Le bateau est en flamme, c'est pas grave, on paye pas l'assurance du bateau, tout va bien. Donc, la semaine prochaine, ce live spécial, et après on repart sur un cycle classique de Pirate Talk Hacking, etc., etc. Merci à tous d'être venus, désolé pour la petite coupure sur le finish, mais bon, on a eu le temps quand même de discuter pas mal. Et puis bah la semaine prochaine ou à dans 15 jours si vous voulez pas regarder le live spécial. Allez, bonne fin de week-end, amusez-vous bien et à plus. Salut.